La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. J'ai le très grand plaisir d'accueillir Victor Rousseau, qui est un psychiatre du Centre Hospitalier de la Chartreuse et que vous connaissez sûrement puisque vous l'avez déjà entendu participer à une émission sur la violence. Il a bien voulu répondre à notre invitation pour nous parler aujourd'hui d'une question vraiment brûlante qui est celle des rapports entre la psychiatrie et la justice. On peut en effet, compte tenu des situations dramatiques qu'on rencontre aujourd'hui, s'interroger sur le rôle des troubles psychiques qui sont souvent évoqués dans le cadre de ces drames, mais aussi on se dit comment peut-on arriver là ? Aurait-on pu prévenir le drame ? Et puis, à la fin du compte, comment rendre justice ? Donc, vraiment, merci beaucoup, Victor, d'avoir bien voulu passer un moment avec nous. Et j'espère que nos auditrices et auditeurs seront tout à fait intéressés par le sujet d'aujourd'hui. Alors, peut-être, si tu veux bien, on pourrait imaginer dans un premier temps voir quelles sont les différences dans le fonctionnement de deux institutions, d'une part la justice et d'autre part la psychiatrie, de manière à voir un peu sur quel terrain on évolue et comprendre comment la jonction entre les deux peut être difficile. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, poser une question ? Est-ce qu'en pratique, les différences qui existent au plan du fonctionnement des deux types de structures sont difficiles à maîtriser ?
Bonjour, merci de m'inviter. Pour ce qui est de la psychiatrie, parce que c'est ça que je connais le mieux, donc la psychiatrie, c'est le champ de la médecine qui s'intéresse à la maladie mentale, à la souffrance psychique. Comme toutes les disciplines médicales, donc c'est une discipline qui est scientifique, standardisée, malgré l'image qu'on peut avoir du psychiatre dans certaines séries télé ou au cinéma, où il peut avoir un discours très brumeux, un peu incompréhensible. Ça fait partie des impératifs du scénario et des caractérisations qui répondent à des enjeux narratifs. Dans la vraie vie, à l'hôpital, un psychiatre, c'est donc un médecin qui va poser des diagnostics en se basant sur un jugement clinique, sans pouvoir se baser autant que les autres spécialités sur des examens complémentaires. Ce n'est pas avec une imagerie cérébrale qu'on va poser le diagnostic d'une maladie mentale. Pour autant, ça ne veut pas dire que le psychiatre pose ses diagnostics de manière arbitraire, au sens où nous disposons d'une formation qui est commune, de classifications qui sont internationales, dans l'objectif justement de limiter les différences de diagnostic entre les différents pays.
Donc une classification internationale des maladies psychiatriques.
Tout à fait.
Qui sont donc identifiées, définies de façon précise.
De façon en fait statistique. On identifie dans chaque pays quels sont les symptômes retrouvés le plus fréquemment pour chaque pathologie. On regarde ce qu'il y a suffisamment en commun pour que tous les médecins, tous les chercheurs puissent avoir le même vocabulaire. Au sens où, par exemple dans le champ de la recherche, si un médecin indien dit avoir travaillé sur une population d'une centaine de patients présentant un épisode dépressif caractérisé, un médecin australien, mexicain, français saura exactement de quel type de patient ce sera.
On pourrait dire de façon schématique qu'on parle le même langage en ce qui concerne la partie diagnostique.
Ce sera le même langage sur le papier, deux médecins à l'autre bout du monde seraient censés avoir le même diagnostic s'ils ont des mêmes symptômes.
Donc une classification internationale.
Qui est internationale, qui se veut adogmatique, elle ne se base pas sur un courant en particulier, elle se veut vraiment purement statistique.
D'accord. Alors, on peut imaginer quand même que les deux structures, l'une médicale, l'autre judiciaire, travaillent dans des conditions de temps qui ne sont pas les mêmes. En effet, on peut imaginer que la justice intervient après le passage à l'acte, parfois même longtemps après que cet acte soit intervenu, avec à l'inverse un temps de décision au moment où la justice est donnée, qui est relativement court, puisque ça se passe au cours d'un procès. Alors qu'au contraire, le psychiatre intervient davantage dans la durée, avec une prise en compte de la trajectoire de la personne et avec en plus le souci de son évolution. Est-ce que cette différence de constante temporelle est gênante dans le cadre de la cohésion entre des données psychiatriques et des données juridiques judiciaires?
Alors, ce qui est vraiment très important de préciser, et ça, c'est vraiment un message qu'il faut absolument souligner, c'est que la psychiatrie est une discipline médicale. Son objectif, c'est de faire du soin. Ce n'est absolument pas de rendre la justice.
Ni de procéder à une enquête.
Ni de procéder à une enquête. C'est un raccourci qui est très fréquent, très facile et souvent très faux de vouloir associer la commission d'une infraction, même d'une infraction grave, avec un trouble psychiatrique. Tout simplement parce que, et ça les chiffres on peut les avoir assez facilement, dans la quasi-totalité des cas, l'auteur de l'infraction ne présente pas de maladie mentale. Et, petite subtilité, même si on retrouve un état pathologique chez l'auteur d'une infraction, on ne peut pas non plus immédiatement dire que c'est à cause de cette pathologie qu'il y a eu commission de l'infraction. On peut prendre un exemple volontairement absurde, mais si on imagine un braqueur de banque qui se fait arrêter après avoir fait une tentative de braquage et qu'on constate que ce braqueur a un état dépressif, est-ce que on va dire que son acte est expliqué parce qu'il est dépressif? Non, ce serait
pas de liaison cause à effet. Mais ça veut dire que quelque part le psychiatre n'intervient qu'après réquisition, une fois que le juge ou du moins l'organisme judiciaire a besoin d'avoir un avis complémentaire sur la santé mentale de l'acteur.
Le médecin peut effectivement intervenir lorsque la justice, d'une manière générale, a besoin de compétences qu'elle ne dispose pas. Elle fait alors appel à un médecin qui va, le temps de sa mission, être désigné comme étant expert. Alors le psychiatre expert, ce n'est pas du tout un super psychiatre ou un psychiatre qui est connu pour des compétences exceptionnelles. Le terme expert, ça veut dire qu'il a des compétences que le tribunal ne dispose pas, à savoir qu'il est médecin. Il peut intervenir vraiment à tous les moments d'une procédure judiciaire. Il peut intervenir quasiment immédiatement après les faits, pendant le temps d'une garde à vue, si jamais il y a eu vraiment un flagrant délit, la personne est en garde à vue. On se pose la question du rôle que pourrait avoir une éventuelle pathologie mentale sur la commission de l'infraction. Le lendemain, il passera en comparution immédiate. On va demander à un médecin psychiatre d'aller voir rapidement et de répondre rapidement à des questions sur son état de santé. Sinon, le médecin, il peut intervenir plus tard, lorsque la procédure d'instruction, c'est-à-dire l'enquête, est en cours, et que parmi les temps de l'enquête, il y a le temps de cette expertise pour éclairer le magistrat sur une éventuelle pathologie. Ça peut aussi nécessiter une intervention d'un médecin psychiatre après une condamnation. Par exemple, une fois qu'une personne est condamnée, elle est incarcérée et elle va obtenir une libération conditionnelle. Il peut y avoir une sollicitation sur réquisition d'un médecin expert pour évaluer la dangerosité de la personne, le risque de récidive, et donc évaluer le bien fondé de cette demande de libération anticipée.
Donc ce qui veut dire que dans la réquisition du psychiatre, il y a des questions précises qui lui sont posées, auxquelles il doit répondre. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il ne doit répondre qu'à ces questions-là et pas aux autres observations qu'il aurait pu... dont il aurait pu être témoin, par exemple?
Alors, les questions, elles sont très précises, c'est très standardisé, je pourrais vous les réciter par cœur. Une des règles phares, c'est la mission et rien que la mission. Le médecin, il est là, lorsqu'il est réquisitionné en tant qu'expert technique, il est là pour apporter une connaissance, son savoir médical. Il n'est pas là pour participer à l'enquête, il n'est pas là pour déterminer la culpabilité ou non de la personne. Il est là pour éclairer le magistrat sur un état pathologique ou non, un éventuel lien de cet état pathologique avec l'infraction qui a été commise.
Une éventuelle évolution.
Alors, sur le papier, on ne peut plus demander au médecin de se prononcer sur le risque de récidive. Par contre, parce que c'est quand même quelque chose que les magistrats aimeraient bien connaître, il est parfois demandé un pronostic sur l'évolution ultérieure du comportement. Ce qui, bien évidemment, équivaut à sortir un petit peu sa boule de cristal, ce qui, dans la quasi-totalité des cas, est au minimum très compliqué. Une des questions qui est également posée, c'est celle aussi du discernement. Au moment de l'action, est-ce que la personne savait ce qu'elle faisait ou non, de par un état pathologique?
Alors, est-ce que ça veut dire que après réquisition, le psychiatre doit répondre à des modalités particulières, c'est-à-dire que dans l'expertise, quelles sont les modalités de l'expertise? Quand est-ce que l'expertise arrive auprès du psychiatre? Est-ce qu'il y a un long délai? Est-ce que c'est très court? Est-ce qu'il a le temps d'y réfléchir? Est-ce qu'il a connaissance du dossier au préalable? Comment ça se passe?
Ça peut être soit pendant ou après une garde à vue, soit vraiment quasiment au moment de l'infraction, soit pendant le temps de l'enquête.
Donc là, le psychiatre est consulté très vite.
Là, il y a une demande en général, effectivement, à ce que le médecin intervienne assez vite, ce qui forcément n'est pas toujours possible. On a un peu plus de délai lorsqu'on est dans la phase d'instruction, parce que bah, les délais de la justice, c'est comme les délais médicaux, c'est malheureusement assez long. Pour ce qui est effectivement de l'accès aux pièces, ça dépend. Lorsqu'on est en flagrant délit, que la personne est en garde à vue, bah, on n'a pas vraiment accès à des pièces, parce que de toute manière, le dossier il est encore en cours de constitution, on n'a pas de documents sur lesquels se baser. Lorsqu'on est en phase d'enquête, en phase d'instruction, il y a déjà parfois plusieurs auditions qui ont été faites, des victimes, de l'auteur présumé, des témoins. Ça, ce sont des choses qui peuvent avoir un intérêt lorsque l'expert y a accès. Et en général, l'expert est très demandeur d'avoir tous ces éléments pour pouvoir éclairer un petit peu le contexte.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'une fois que l'expert est en possession d'un dossier, donc après un certain délai, il peut éventuellement être influencé par une histoire déjà racontée de multiples fois par celui qui est coupable de l'infraction et qui a donc un peu construit son type de réponse. Est-ce que c'est pas un écueil?
Alors la simulation de la personne qui chercherait à, entre guillemets, se faire passer pour ayant un trouble psychiatrique, pour échapper à la justice, en pratique, ça c'est quand même excessivement rare. Les gens ont peur de ça, hein, de passer pour fou. Ça m'est déjà arrivé au contraire que, dès le début de la consultation, la personne me dise « Ne vous inquiétez pas, docteur, je savais ce que je faisais, oui, c'est moi, je ne suis pas fou. » Après, le fait d'être influencé par des examens antérieurs ou des pièces antérieures, influencé, entre guillemets, oui, mais dans le bon sens. Parce que lorsque cet examen est fait dans le cadre de l'instruction, donc potentiellement plusieurs mois après les faits, qu'on demande au médecin psychiatre de se prononcer sur l'état psychique de la personne plusieurs mois après les faits, alors qu'il n'était pas sur place, avec quelqu'un qui peut-être est dans une négation de tous les faits, qu'il va se borner à dire que c'est pas lui qui ne se souvient de rien, donc là, répondre aux questions, c'est un peu compliqué. Le fait d'avoir, par exemple, une audition de garde à vue qui a été faite le jour J, ça permet quand même de s'imprégner un petit peu de l'état psychique de la personne. Si elle a été hospitalisée avec un certificat médical qui explique que le jour de l'infraction et donc de son hospitalisation, elle était complètement en dehors de la réalité, très délirante, etc., bah oui, ça influence, mais ça influence dans le bon sens, parce que ça permet de se rapprocher de la vérité de ce qui se passait dans l'esprit de la personne au moment des faits, donc c'est très précieux.
Alors, souvent on a l'impression que le citoyen pense que l'expert décide de la responsabilité de la personne qui est jugée. En réalité, cette formule est erronée, dans la mesure où l'expert n'est ni un juge, ni un juré, ni un avocat, mais doit simplement éclairer la justice sans décider.
Le principe de la justice, c'est le principe du contradictoire. C'est pour ça qu'il y a une accusation et qu'il y a une défense. Le médecin, il ne décide d'absolument rien, parce que ça, c'est le travail du magistrat. Le psychiatre, lui, il répond aux questions qu'on lui pose sur l'état de santé de la personne, sur les éventuelles conséquences de cet état de santé sur son comportement. Il peut dire qu'au moment des faits, la personne était en abolition du discernement, c'est-à-dire que absolument rien ne permet d'expliquer son comportement sauf l'état pathologique. Mais pour ce qui est de l'irresponsabilité pénale, ça c'est le juge qui pourra déclarer ça. en sachant que le juge n'est absolument pas soumis à l'avis du médecin. Parce que bah, le rôle du juge, c'est de juger.
Il peut l'interpréter à son propre sens. Il peut même ne pas, entre guillemets, avoir confiance dans ce qui a été écrit, surtout si plusieurs experts ont été commis et qu'ils ne sont pas du même avis.
Un grand classique, c'est de demander plusieurs expertises lorsque justement la situation est complexe et de se rendre compte qu'avec trois experts, on a trois avis différents.
Et oui.
Ça, c'est pas rare du tout. La variation inter-expertise, ça, c'est quelque chose qu'on constate bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus multiplier les expertises, parce qu'on ne fait que multiplier les facteurs de confusion. Ce qui permet d'éviter un petit peu les biais, ce sont les collèges d'experts. C'est de se dire, on a une affaire qui est complexe, au lieu de demander deux experts l'un d'après l'autre, une expertise, une contre-expertise, on va demander à deux médecins de faire l'expertise en même temps. Ça permet d'avoir deux regards qui se croisent, et si les deux experts ont un avis qui est très similaire, on peut se dire...
Dans un même temps d'examen, ce qui permet aux deux experts de discuter et éventuellement d'amender tel ou tel aspect pour avoir une proposition qui soit plus cohérente. Ils ne sont pas tous les deux du même avis.
Avec éventuellement même la possibilité de rencontrer la personne plusieurs fois. Alors d'un point de vue organisationnel, ce n'est pas toujours possible. Mais oui, ça permet effectivement d'avoir un regard un peu plus objectif en croisant les subjectivités.
Est-ce que dans ces conditions, on peut imaginer que l'expert ou le collège d'experts va donner une proposition concernant la responsabilité du criminel, entre guillemets, avec un exposé qui est en quelque sorte le résultat de l'expertise, en disant en définitive, en conclusion, nous pensons qu'il y a une maladie psychiatrique, c'est celle-ci, est-ce qu'on a la possibilité de le dire au cours du jugement, ou si c'est protégé par un secret, ou bien au contraire, est-ce qu'il est possible que les experts disent, eh bien voilà, il n'y a pas d'explication psychiatrique au geste qui a été réalisé.
Alors, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de trouble psychiatrique qui explique la commission de l'infraction.
Dans la grande majorité des cas.
Dans la grande majorité des cas, oui, ce n'est pas parce qu'il y a une maladie mentale que tel délinquant va voler un sac à main dans la rue. Ce n'est pas parce qu'il y a une maladie mentale que deux personnes, sous l'état de l'alcool, vont se taper dessus. Alors, il y a la question de l'alcoolisation, mais les personnes qui sont alcoolisées et qui se tapent dessus à la sortie de boîte de nuit n'ont pas tous un trouble de l'usage de l'alcool, un état pathologique.
Mais ça peut être un facteur favorisant, aggravant, déterminant.
Alors l'intérêt aussi de l'expertise, ça va justement être d'essayer d'éclairer un petit peu la trajectoire de la personne, parce qu'on peut ne pas avoir de pathologie psychiatrique en tant que tel, donc pas d'état dépressif, pas de maladie psychotique, pas de trouble de la personnalité, mais d'avoir un parcours de vie à risque d'amener à des actes délictueux. Ça, ce sont des éléments que la personne n'évoque pas forcément d'elle-même, parce qu'on ne lui pose pas forcément la question, c'est pas forcément non plus le sujet lors de certaines auditions avec les forces de l'ordre ou avec le magistrat. Et parfois, ça même arrive assez régulièrement que la personne qui est mise en cause, elle va évoquer certains événements de sa vie, certaines violences subies pour la première fois dans le cadre de cette expertise-là.
Donc, ça veut dire quand même que, et merci d'avoir fait cette ouverture sur la trajectoire, car en effet, l'expert psychiatre va avoir comme rôle d'essayer de comprendre la trajectoire humaine du délinquant. Et dans le cadre de cette compréhension, voir quels sont les facteurs favorisants, quels sont les facteurs de rupture, quelles sont les maladies psychiatriques éventuelles. Mais est-ce que c'est assez courant que d'arriver à trouver quand même une explication, puisque tu viens de nous dire que la majeure partie n'ont pas d'explication. Alors, comment faire dans ces conditions pour éclairer la justice ?
Alors ça, c'est très difficile de répondre parce que ça regroupe une multiplicité de situations assez infinies. On peut effectivement avoir des cas très caricaturaux où l'explication peut être relativement entre guillemets simple. On a donc les cas extrêmement rares où là on a un état psychiatrique qui va éventuellement amener à un passage à l'acte hétéroagressif, par exemple, une personne qui est en décompensation psychotique avec des éléments de persécution, qui a peur pour sa vie parce qu'elle a l'impression que tout le monde va chercher à lui faire du mal. Et qui, voulant fuir, va chercher à se défendre en donnant un coup avant de s'enfuir, alors que absolument personne ne le menaçait. Bon, bah ça, c'est quelque chose qui peut effectivement se déceler à l'entretien.
Alors, il y a par exemple aujourd'hui de nombreux drames qui sont rapportés par les médias où on voit de très jeunes garçons, des adolescents, qui n'ont pas apparemment de difficultés ni d'éducation, ni financière, ni sociale, ni scolaire, et qui pourtant réalisent des crimes absolument épouvantables qu'on a même difficulté à imaginer que ça puisse se réaliser. Comment peut-on expliquer ça? Et on est quand même complètement désarmé. Je pense que la société dans laquelle on vit aujourd'hui n'y comprend plus rien.
De creuser un petit peu dans l'histoire personnelle de ces individus, parce que des passages à l'acte d'une particulière gravité dans un environnement sans aucun facteur de risque, c'est quand même particulièrement exceptionnel. Lorsqu'on reprend un peu la trajectoire, lorsqu'on a un passage à l'acte extrêmement grave, on retrouve en général que c'est pas la première fois qu'il y a un passage à l'acte, qu'il y a déjà des conduites délictueuses, qu'il y a des pères qui sont violents, qu'il y a éventuellement des consommations de toxiques, que la personne a déjà des troubles des conduites, a déjà fait
Des mères
l'objet
violentes aussi, pas que les pères.
des
Oui.
pères PAIR,
Ah, d'accord,
qu'il
oui, voilà.
évolue dans un groupe de
Merci de
personnes,
préciser.
non mais c'est vrai, qu'il évolue dans un groupe de personnes qui lui-même peut être violent, tout ça, ce sont des choses qui peuvent favoriser des comportements délictueux.
Alors, quand on est devant une telle situation, on peut se demander s'il y a des maladies psychiatriques qui sont plus volontiers à la source de difficultés de comportement qui débouchent sur des actes criminels. Est-ce qu'on peut identifier un certain nombre de maladies psychiatriques qui, entre guillemets, exposent davantage à la criminalité?
Alors, de maladies psychiatriques, très clairement, non. Il y a.
Parce qu'on entend souvent, par exemple, et c'est la peur d'un certain nombre de citoyens, quand on en prononce le mot de schizophrénie, où on a l'impression que c'est vraiment, si quelqu'un souffre de schizophrénie, la peur, c'est que, on soit assassiné ou qu'il assassine quelqu'un.
Alors, la schizophrénie, donc, c'est une maladie psychotique, donc une altération du rapport à la réalité, avec des hallucinations ou des idées délirantes. Au niveau mondial, c'est entre 0,5 et 2% de la population. On n'a pas 2% de la population qui est susceptible de commettre des passages à l'acte extrêmement graves. Les personnes qui sont atteintes d'une maladie psychotique, comme la schizophrénie, elles sont beaucoup plus victimes de violences qu'autrices. On a, via les statistiques, un petit peu des indicateurs de situations ou de troubles qui sont plus à risque de commission d'infraction, la maladie psychotique et la schizophrénie notamment, ça arrive loin derrière. Là, vraiment le premier facteur de risque, mais qui arrive même loin devant les autres, c'est la consommation d'alcool, c'est la consommation de drogue. Vous interdisez l'alcool en France, vous faites chuter la violence, d'une manière extrêmement nette. Vous pouvez avoir des pathologies psychiatriques qui peuvent un petit peu favoriser ça, mais ça arrive loin derrière ces facteurs-là.
Là, il y a quand même une grosse responsabilité politique qui n'interdit pas ce type de consommation. De la même façon pour la drogue. Aujourd'hui, on s'attaque beaucoup aux dealers et à ceux qui font de la drogue, mais on n'a pas l'impression qu'on s'intéresse tellement à ceux qui la consomment. Et on peut dire que s'il n'y avait pas de consommateurs, ou du moins s'il y en avait moins, il y aurait moins d'incidents. Il y aurait moins de vendeurs.
Alors, la justice s'intéresse aux consommateurs, puisque lorsque une personne est condamnée, l'objectif de la condamnation, elle est multiple. Il y a le côté de punition, évidemment, il y a le côté diminution de la récidive, il y a le côté parfois extraction de la personne, de l'isoler du monde via la détention. Ça, c'est ce qu'on appelle les peines principales. C'est vous avez conduit à 130 alors que c'est limité à 50, votre peine principale, ça va être une amende extrêmement lourde. En plus des peines principales, il peut y avoir des peines dites complémentaires. En plus qu'on vous ait retiré 8 points, vous allez faire un stage de conduite. C'est quelque chose qui est en plus et qui va justement essayer de limiter le risque de récidive. Pour les personnes qui sont consommatrices de drogue et dont la consommation de drogue a pu participer à la commission d'une infraction, typiquement une personne qui aurait un trouble de la personnalité antisociale, qui a une comorbidité addictologique, qui est consommatrice par exemple de cocaïne, qui donc est un psychostimulant, donc qui peut favoriser un passage à l'acte hétéroagressif, elle commet une agression, elle est condamnée. Bon, elle est condamnée à une peine principale, prison, sursis, peu importe, elle peut également être condamnée à des soins. Dans ce qu'on appelle une injonction de soins, c'est de lui dire, vous avez votre condamnation, en plus, vous avez l'obligation de faire des soins. Alors la personne, elle reste libre de faire ses soins, elle est enjointe à faire ses soins, mais c'est dans son intérêt de les faire. Et là, l'objectif de ces soins, c'est pas uniquement que la personne aille mieux, c'est surtout de se dire qu'on va réduire le risque que la personne se retrouve dans l'état pathologique qui a amené à la commission de l'infraction. Là, l'objectif du soin, pour la justice, c'est la prévention de la récidive.
Donc on voit que le système a mis en place, en théorie, beaucoup de mesures qui permettent précisément d'éviter ces récidives. Or pourtant, on a l'exemple aujourd'hui de cas de récidives manifestes qui ont été quelque part ou mal pris en charge ou mal compris. Ou comment on peut expliquer ça? Parce que le dispositif que tu décris est un dispositif très riche et très cohérent. Et malgré tout, il y a quand même des récidives qui sont importantes.
Le risque zéro n'existe pas, personne n'est obligé de se soigner.
Il y a ça aussi. Pourtant, quand il y a une injonction de soins, on est bien obligé de la suivre.
Alors, on n'est pas obligé au sens où cette injonction de soins, elle peut permettre, par exemple, d'obtenir une réduction de peine. Mais la personne n'est pas obligée. Elle peut très bien dire qu'elle refuse absolument tous les soins, de s'inscrire dans le moindre parcours de réhabilitation, et dans ce cas-là, elle fera sa peine pleine et entière. Mais là où on voit que ça marche, c'est que lorsqu'on regarde les statistiques de récidive, les différences entre les personnes incarcérées qui ont fait une peine complète et les personnes incarcérées qui ont obtenu une réduction de peine. Donc ceux qui sont restés moins en prison que les autres. Et bien en fait, ceux qui ont fait leur peine entière, ils ont été condamnés à 10 ans, ils ont fait 10 ans, ils récidivent davantage que ceux qui sont restés moins que prévu. Parce que ceux qui ont bénéficié...
Avec des remises de peine, par exemple ?
Oui, parce que ceux qui ont bénéficié de remises de peine, ça peut paraître contre-intuitif, ils ont été, entre guillemets, moins punis. C'est parce qu'en fait, ceux qui ont bénéficié de ces remises de peine se sont inscrits dans un parcours de réhabilitation et de soins, et donc récidivent moins.
On a des statistiques qui permettent de chiffrer un peu ce
phénomène. On a des statistiques, mais attention, c'est des statistiques qui restent assez incomplètes parce qu'on se base surtout sur la récidive. Du type, le taux de récidive à 5 ans et de temps. Sans s'intéresser à la nature du comportement. Entre guillemets, une personne qui, par exemple, est beaucoup dans de la violence physique et des consommations toxiques, si on dit, 5 ans plus tard, elle a récidivé. Bon, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça aussi, de quelle récidive est-ce qu'il s'agissait? Est-ce qu'on était encore dans des passages à l'acte avec le même niveau de violence? Est-ce qu'il y avait encore des toxiques? Est-ce que cliniquement, la personne n'a pas commencé déjà à aller mieux?
Ça, c'est des choses. Il n'y a pas d'injonction de soins une fois le prisonnier est sorti de prison.
L'injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire peut être une des conditions de la libération conditionnelle.
Mais s'il a fait son temps, il n'y a pas de libération conditionnelle, il a fait son temps, est-ce qu'il y a là une injonction qui est prévue pour précisément éviter la récidive?
Lorsque une injonction de soins est programmée, il y a une durée. Lorsqu'une injonction de soins est programmée, il peut y avoir une durée. Alors là, ce serait impossible pour moi de donner des chiffres, même approximatifs, parce que j'imagine que ça doit dépendre beaucoup du type d'acte, du profil de la personne et du juge.
Sûrement. Et est-ce que d'une façon générale, on peut dire que il est possible de souffrir psychologiquement de façon importante, soit par des antécédents familiaux, soit par des antécédents ou des vies cabossées. Est-ce qu'il est possible de dire que souffrir psychiquement n'est pas obligatoirement dangereux?
Dans la quasi-totalité des cas, ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Si vous avez une phobie, si vous êtes phobique des chiens, est-ce que ça fait de vous quelqu'un de dangereux? Ça n'a rien à voir. Si vous avez un état dépressif chronique et persistant, est-ce que ça fait de vous quelqu'un de dangereux?
La dépression reste quand même fréquente dans la population française, semble-t-il.
Oui, la prévalence dans la population française, c'est à peu près 15%. Donc, c'est-à-dire que 15% oui. a eu un épisode dépressif dans l'année. Ce serait un peu absurde de dire que 15% de la population présente un état de dangerosité. Ce qui vraiment va pouvoir faire craindre un risque, et j'insiste sur le côté risque et pas le côté forcément état dangereux, c'est certains troubles de la personnalité, par exemple les troubles de la personnalité antisociale, mais surtout les consommations de toxiques.
Et bien sûr. Et est-ce qu'une fois le jugement rendu, il peut y avoir une demande de la justice d'un suivi psychiatrique, même une fois la peine réalisée? Est-ce qu'il y a une possibilité de suivi qui est prévue par la justice, par la psychiatrie?
Dans le cadre de l'injonction de soins, la personne peut être plus que fortement encouragée à bénéficier de soins. Une fois que tout ce dispositif-là est terminé, la personne elle est libre de bénéficier ou non de ses soins. Elle est responsable de son parcours.
Alors, derrière ma question, il y a la préoccupation qu'on peut avoir de se dire, est-ce qu'il est possible de prévoir un passage à l'acte, même si c'est une récidive, voire même pas une récidive? Est-ce qu'il est possible, chez une personne qui a été condamnée pour X chose, qui a été vue sur le plan psychiatrique, est-ce qu'il est possible, dans sa trajectoire, d'isoler des facteurs susceptibles de dire, il pourrait y avoir un passage à l'acte délictueux, criminel, dans tel ou tel domaine?
Alors oui et non. Déjà, attention à ne pas trop associer la psychiatrie, qui donc a pour objet de faire le soin, avec la détection du crime. La psychiatrie ne va pas soigner le crime. Il peut soigner des personnes qui, en plus de ça, ont des actes délictueux. On peut identifier, on a identifié des facteurs de risque de dangerosité qui sont soit psychiatriques, soit criminologiques, donc qui n'ont aucun rapport avec un état pathologique. Ça, c'est des choses que le médecin qui est formé à ça peut évaluer, soit avec son évaluation clinique, soit via des échelles qu'on appelle des échelles actuariennes, qui sont spécifiquement construites pour essayer d'approcher une prédiction du risque de récidive. Très clairement, on n'est absolument pas dans la boule de cristal. Le comportement humain est beaucoup trop complexe, les passages à l'acte sont beaucoup trop complexes. Entre une personne qui va être dans la revendication de la violence, qui est engagée dans une carrière criminelle de narcotrafiquant, qui donc est susceptible d'user de la violence de manière récurrente, ou de l'autre côté du spectre, des passages à l'acte très opportunistes, je suis en train de faire un cambriolage, et tout d'un coup, je tombe sur le propriétaire des lieux, je ne m'y attendais pas, je passe à l'acte parce que je crains que la personne appelle la police. On n'est pas du tout sur le même type de violence.
Bien sûr. Je ne voudrais pas qu'on termine cette émission sans avoir évoqué la question des agressions sexuelles sur enfants, qui aujourd'hui, malheureusement, nous offre des exemples tragiques et qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Et souvent chez des personnes donc, qui ont une trajectoire de vie qui évoque quand même très fortement la pédophilie. La pédophilie, est-ce que c'est une maladie psychiatrique?
Alors la pédophilie, est une attirance sexuelle pathologique, un fantasme persistant centré sur des personnes mineures. On va parler de troubles pédophiles lorsque on va être dans des situations où la personne là va être engagée dans une démarche soit de consultation de contenu pédopornographique, soit de passage à l'acte sur des mineurs. La pédophilie n'est pas du tout la seule explication possible à un passage à l'acte de nature sexuelle sur un mineur, mais ça, je propose qu'on n'en parle pas forcément parce qu'on pourrait en avoir pour une heure. Donc, en tout cas, la personne qui a des fantasmes pédophiles, c'est une personne qui doit effectivement bénéficier de soins, avant tout. Elle peut être demandeuse. Ça, c'est, je l'ai vu une fois en centre médico-psychologique, d'une personne qui disait « Bonjour docteur, j'ai des fantasmes pédophiles, aidez-moi ». C'est pas la situation la plus fréquente, c'est dommage. Heureusement, comme justement l'idée c'est de prévenir, il y a des choses qui se développent, comme par exemple un numéro vert qui s'est lancé pour les personnes qui ont ces fantasmes pédophiles pour qu'elles puissent être orientées entièrement anonymement vers des structures d'aide.
Et on a, tu as le numéro éventuellement ?
Si on me laisse le chercher 2 minutes, oui.
Oui, d'autant que on a le sentiment aujourd'hui que les agressions, les abus sexuels, surtout chez les enfants, occupent une place de plus en plus importante. Et on peut se demander s'il s'agit d'une augmentation réelle ou c'est éventuellement le fait d'une parole qui se libère davantage, peut-être même les deux à la fois. Et dans ces conditions, j'aimerais quand même, une fois que tu auras trouvé le numéro vert correspondant, que tu nous donnes quelques appréhensions sur cette évolution apparemment particulière dans les conditions actuelles d'augmentation de faits d'agression ou d'abus sexuels chez l'enfant.
Alors le numéro vert, donc je l'ai trouvé, c'est le 0806 23 10 63.
Donc, tu peux répéter s'il te plaît,
0806 23 10 63.
D'accord.
Et alors pour ce qui est de la question de la fréquence, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement une augmentation importante du nombre de plaintes de personnes qui ont été victimes, à la fois parce que les personnes vont porter plainte davantage, que ces plaintes sont mieux prises en compte. Est-ce que ça veut dire que derrière ça, il y a plus de passages à l'acte ? Ça, c'est une question qui est très compliquée, dont je n'ai pas la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, ce n'est qu'une minorité des personnes qui viennent déposer plainte.
D'accord. Et minorité parce que, qu'est-ce qui bloque ?
Alors ça, pareil, c'est multifactoriel. Hein. Ça, c'est pas du tout spécifique aux mineurs. Il peut y avoir un phénomène de honte. L'enfant peut ne pas être cru. Dans une grande partie des cas, l'agresseur est de toute manière une personne connue de l'entourage, donc qui ne va peut-être pas l'accompagner pour pouvoir aller déposer plainte. Ou alors, l'enfant n'est pas forcément cru. J'étais tombé sur certaines statistiques, alors qui datent un petit peu, ça s'intéressait sur les violences sexuelles commises dans l'église, avec que se passe-t-il lorsqu'un enfant mineur déclare à ses parents avoir été victime d'une agression sexuelle par un membre de l'église. Et alors c'était des statistiques qui étaient absolument effrayantes, parce que dans plus de la moitié des cas, par exemple, si l'enfant mineur était une petite fille qui expliquait ça à sa mère, dans plus de la moitié des cas, il n'y avait aucune réponse parentale.
Ah.
Donc, ce qui est effectivement assez catastrophique.
Et aujourd'hui, il n'y en a pas d'explication possible sur ce blackout, on n'en parle pas, parce qu'il ne faut pas, à cause de la culture religieuse, parce qu'il ne faut pas, dans la mesure où les parents pensent que ça va traumatiser l'enfant encore davantage, si on le met dans une structure juridique, avec des expertises, etc., et qui préfère éviter ces troubles.
Ça, c'est difficile à dire, parce que là, c'est moins ma spécialité, mais c'est des choses qu'on peut imaginer. Le fait qu'on fait partie d'une communauté, qu'il ne faut pas trahir cette communauté, ou qu'on n'imagine pas que ça puisse être vrai, ou que c'est une nouvelle qui est tellement horrible à entendre qu'on préfère, entre guillemets, un
le
petit
déni.
Peu l'enterrer.
Le déni.
Peut-être.
Alors, on arrive à la fin de cette émission et j'aimerais quand même poser la question suivante. Souvent, l'expert psychiatre donne l'impression aux citoyens qu'il incite le juge à excuser l'auteur de l'acte, alors qu'à l'inverse, il a le sentiment que la justice ne comprend rien à la souffrance psychique. Comment on peut travailler sur cette ligne? C'est une ligne de crête, hein, je conçois bien, mais de telle sorte qu'il y ait une meilleure compréhension entre ce qu'est la compréhension clinique du psychiatre et qui est l'exigence de la justice à travers le juge.
Alors le psychiatre, il est pas là pour excuser quoi que ce soit, il est là pour répondre aux questions qu'on lui pose sur l'état de santé de la personne et sur une éventuelle maladie psychique qui aurait ou pas participé à un passage à l'acte. À partir de là, le juge, effectivement, prend en compte ça, il prend en compte aussi le parcours de la personne. Ça, c'est un impératif de la justice, puisque le juge a une obligation d'individualisation de la peine. Donc on ne peut pas oui. mettre uniquement une peine en face d'une infraction. Il doit tenir compte du parcours et de la personnalité de la personne. Après, c'est vrai que la psychiatrie, la justice et la société, ça a toujours été un ménage à trois un peu compliqué, où chacun peut vouloir, entre guillemets, prendre un peu l'ascendant sur l'autre.
Oui, on a l'impression que le citoyen pense que l'idée du psychiatre, c'est d'enfermer celui qui est coupable.
Ah bah, de toute manière, la psychiatrie, elle est soumise à des impératifs contradictoires permanents. C'est surtout arrêter d'être un lieu d'enfermement. Mais attention, hein, les fous dangereux, vous les gardez.
Oui.
Et ça, on le voit même encore récemment avec certains projets de réforme. Par exemple, d'examen psychiatrique de personnes suspectées de radicalisation pour vérifier s'ils n'ont pas un trouble mental. Donc nous, alors c'est complètement personnel ce raisonnement, mais du coup, moi, de ce que je comprends de ce projet de loi, c'est qu'on associe, plus ou moins inconsciemment, que si la personne est radicalisée, d'ailleurs radicalisée, quel type de radicalisation, mais que si elle est radicalisée, bah, c'est qu'il y a une maladie mentale. Bon, c'est quand même un raccourci un peu rapide, et récemment, le projet de loi, à ma connaissance, incluait, après une incarcération pour des faits de terrorisme, d'une hospitalisation en lieu de soins après la peine. Comme si on attendait de l'hôpital qu'il soigne le terrorisme. Alors ça, pour le coup, ça fait l'objet d'une publication l'année dernière au congrès de l'Encéphale sur... dans la population des personnes à l'origine d'actes terroristes, combien ont été reconnus irresponsables? Pour combien a été démontré qu'il y avait une abolition du discernement? Donc de dire que là, l'acte n'était explicable que par un état pathologique. La statistique, elle est facile à retenir, c'est 0%.
D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois, Victor, des questions qu'on n'aurait pas du tout évoquées et qui paraîtraient importantes dans cette revue, où on comprend bien qu'entre la nécessité de protéger, de soigner, aussi de comprendre et de juger, psychiatre et justice avancent heureusement ensemble sur une ligne de crête qu'on a vue un peu difficile. Est-ce que tu vois des choses qu'on ait oubliées? Et je pense que de toute façon, les auditeurs et les auditrices auront sûrement la possibilité de nous contacter s'ils voient des données qu'ils souhaiteraient voir éclaircies, puisque je crois qu'on a ouvert quand même un certain nombre de questions, avec en particulier ce projet de loi qui pourrait être intéressant pour une émission future. Est-ce que tu as l'impression qu'on a quand même cerné le problème?
La psychiatrie et la justice travaillent ensemble, mais chacun avec son rôle, l'un de juger, l'autre d'apporter du soin ou son regard de médecin. Et il ne faut absolument pas se dire que l'un va jouer le rôle de l'autre et que ce n'est notamment pas la médecine qui va aller soigner la délinquance.
Eh ben merci beaucoup, Victor, d'avoir passé du temps avec nous et nous aider à mieux comprendre finalement toute cette complexité dans les rapports humains, les trajectoires humaines et les liens entre justice et psychiatrie. Merci beaucoup Victor et vraisemblablement à bientôt.
Eh ben merci de m'avoir reçu.
Chers auditrices, chers auditeurs, au revoir.
La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.